Clôturé hier mercredi à Kinshasa du Forum national portant sur les droits de l'homme, la gouvernance et les élections en RDC à l'horizon 2016. Organisé à Kinshasa par la synergie de la société civile, ce forum avait pour objectif d'établir un dialogue permanent en vue des élections crédibles et apaisées. Parmi les recommandations, les participants demandent aux autorités politiques de veiller notamment au respect strict de la Constitution et au respect des libertés publiques et individuelles. Quelle analyse faire de recommandations issues de ce forum? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIP. Il est aussi coordonnateur de l'ONG Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Il a coordonné ce forum. Jérôme Bonso, bonsoir.
Et bonsoir, monsieur.
Franklin Tchamala, communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Tchamala, bonsoir.
Bonsoir, mon frère Alain.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est maître Ruffin Louco, avocat et chercheur en droits humains. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
La synergie de la société civile a organisé ici à Kinshasa pendant 2 jours un forum national sur les droits de l'homme, la gouvernance et les élections en RDC à l'horizon 2016. Les travaux de réflexion se sont clôturés hier mercredi en partenariat avec les organisations internationales telles que NDI, NED et OCISA. Les ONG congolaises veulent éviter les erreurs constatées lors du scrutin de 2011 par un consensus politique pour résoudre toute crise en RDC. Berry Franklin Luchaka revient sur les recommandations.
Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des politiques congolais à l'issue de ce forum. Par exemple, au président de la République, les participants demandent entre autres de veiller au respect strict de la Constitution et au maintien de la paix et la sécurité des citoyens congolais. À l'endroit du Parlement, les acteurs de la société civile recommandent notamment de tenir compte des aspirations du peuple dans l'élaboration des différentes lois liées à la gouvernance du pays et au gouvernement de veiller au respect des libertés publiques et individuelles garanties par la Constitution de la République et de libérer sans condition les prisonniers d'opinion. Selon la déléguée de l'ONG NED, spécialisée dans la promotion de la démocratie, le présent forum national voudrait contribuer à la reconstruction du dialogue entre acteurs politiques et sociaux congolais sur le processus électoral et la démocratie.
Ce forum est organisé sur base d'une recommandation du processus qui avait commencé à Washington l'année passée parce qu'il s'agit des Congolais. Et pour que les Congolais dialoguent entre eux, ce n'est pas seulement à l'étranger qu'ils doivent le faire, ils peuvent le faire aussi chez eux. C'est ainsi que NED a saisi cette opportunité à travers les organisations de la société civile.
La LINELIP, de son côté, demande à la CENI de publier rapidement le calendrier électoral global pour toutes les élections.
On ne peut pas avoir un document de planification des opérations et des échéances électorales sans calendrier. Ce n'est pas n'importe quel calendrier parce qu'on a déjà produit différents calendriers, mais qui étaient des calendriers produits de façon unilatérale. Et c'est pourquoi nous avons voulu offrir de ce forum pour donner les indications claires aux uns et aux autres et quel contenu donner au calendrier électoral global. Et le premier élément majeur dans l'élaboration du calendrier, c'est le consensus électoral.
Toutes ces demandes vont dans le cadre de pacifier, sécuriser et stabiliser la RDC, à en croire les organisateurs.
Merci Berry Franklin Luchaka. Jérôme Bonso, vous êtes président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIP, et également coordonnateur de l'ONG Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Vous avez coordonné ce forum. Qu'est-ce qui en a motivé l'organisation?
Merci, cher Alain. Avant de répondre à votre question, je tiens à saluer mon compatriote Franklin Tchamala et mon compatriote maître Ruffin Louko, avec qui on va essayer de débattre sur cette question d'intérêt national. Et ce qui nous a poussé à faire ce forum national, parce que nous sommes partis de l'idée de notre rencontre à Washington au mois d'août 2014, la rencontre qui a été organisée par un organisme de droit américain, NED, qui avait invité les organisations de la société civile que nous sommes, qui avait invité la majorité au pouvoir, qui était composée la délégation de la majorité. On a vu là-bas le ministre Lambert Mende, honorable Chadari et d'autres du côté de l'opposition. On a vu le président Kamere, on a vu monsieur Lwakabwanga, on a vu Martin Fayoulou et d'autres. Et c'est là nous avons parlé de nous en tant que
organisations de la société civile, la question tournait autour de la problématique de la révision de la Constitution. Parce que cette rencontre d'août était coïncidée avec la rencontre des chefs d'État qui étaient invités par le président américain Obama pour la sonnette d'alarme de ne pas s'amuser à changer, à tripoter avec la loi fondamentale qui est la Constitution. Et nous, ici, nous avons demandé à ceux-là même qui avaient organisé cette rencontre pour dire nous pouvons ramener cette rencontre chez nous au Congo. C'est de là que nous avons organisé un forum national auquel nous avons fait venir les institutions de la République, les partis politiques, toutes tendances confondues, la société civile, pour voir ensemble comment on peut baliser le chemin pour l'atteinte du dialogue politique et électoral franc, parce que le processus électoral se trouve dans l'impasse, et voir comment on peut arriver à une gestion consensuelle et concertée du processus électoral, comment on peut parvenir à l'élaboration consensuelle d'un calendrier électoral global avec des séquences d'organisation chronologique en respectant les délais constitutionnels. C'est de là où le Forum national avait retenu comme thème phare, entre autres gouvernance sociopolitique, de deux premières mandatures, parce que ce thème, nous l'avons voulu confier aux partis politiques de l'opposition et de la majorité. C'est pourquoi nous avons fait venir, nous avons invité le PPRD, nous avons invité l'UDPS, nous avons invité l'INC, pour qu'ils viennent nous donner leur entendement de première mandature, et ce thème devait faire comme une conférence inaugurale. Et nous avons noté la présence de l'INC, qui était représentée par M. Vital Kamerhe, nous avons l'UDPS, par son secrétaire général adjoint, par le PPRD, il avait manifesté la bonne volonté, ils étaient en route, ils avaient déjà préparé le texte, mais le délégué du PPRD, le haut cadre du PPRD, m'a laissé entendre qu'il a fait difficile à nous rejoindre. Et nous avons compris qu'il était embêté par qu'il serait embêté par les embouteillages. Il n'a pas pu être avec nous. Et nous avons parlé aussi de la problématique de l'alternance démocratique pacifique à l'horizon 2016. Et le haut cadre qui ont fait de brillants exposés ont démontré que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il n'y a jamais eu remise et reprise entre le président de la République sortant et entrant. Ils ont fait, quand les Belges sont partis, ils n'ont pas fait remise et reprise avec le président Kassavubu. Quand Kassavubu a été fait partir, quand on l'a fait partir de force par le président Mobutu, Kassavubu n'a pas fait remise et reprise avec Mobutu. Il en était de même avec Moïse Kabila, qui n'a pas fait remise et reprise avec Mobutu. Et maintenant, avec le président Kabila, Joseph, nous avons dit, c'est l'occasion maintenant qu'il puisse donner un signal fort, un message clair, qu'avec lui, il va procéder à faire l'alternance démocratique, pacifique et civilisée avec celui qui va le remplacer après 19 décembre 2016. C'est alors, là que nous avons essayé de cadrer cela. Et maintenant, c'est ça, c'est que nous avons mené maintenant aux recommandations.
Voilà, nous allons revenir sur les recommandations tout à l'heure, Jérôme Bonceau. Vous insistez sur le dialogue politique, mais quel sera le contenu de ce dialogue ?
Et vous savez, les gens se posent des questions. Le contenu politique du dialogue, c'est ce que nous avons vu, le point de divergence. Parce que nous sommes dit, par quel scénario allons-nous commencer ? Parce qu'avec la loi électorale, qui a fait des dégâts, la nouvelle loi électorale, ça remet en question la planification de la CENI. Est-ce qu'on va commencer par les locales, qui nous prendraient, du point de vue technique, qui nous prendraient beaucoup de temps pour ne pas nous permettre d'organiser l'élection présidentielle qui est une exigence constitutionnelle, et c'est de là où on va se mettre d'accord sur le fichier électoral, sur le mode de recensement et sur la question aussi de vote de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Ce sont des matières qui sont prévues, mais nous ne pouvons pas faire de face que la résolution 98 dans sa résolution 14, dans son article 14.b, on donne une mission à la communauté internationale d'offrir de bons offices aux Congolais, à la classe politique congolaise, pour l'atteinte d'un dialogue inclusif qui va porter sur 1. La réconciliation, 2. Sur la démocratisation, 3. Sur l'organisation de l'élection. Donc nous avons déjà des cadres qui sont déjà établis par la communauté internationale. C'est à nous Congolais voir comment, quelles sont d'autres matières qui s'ajoutent afin d'intégrer comme contenu du dialogue. Mais au forum, nous sommes en train de faire un cahier des charges où nous allons donner le contenu du dialogue qui va se tenir et qui va se tenir. Parce que c'est du dialogue qui est né le consensus, c'est du consensus qui est né la confiance, c'est de la confiance qui amène la relance même du processus électoral.
Voilà, avant que je ne donne la parole à Franklin Tchamala, très rapidement, Jérôme Bonceau, vous insistez beaucoup sur la gestion consensuelle, concertée du processus électoral. Ce n'est pas la première fois que vous en parlez. Visiblement, vous n'êtes pas entendu.
Nous sommes entendus, parce que tout le monde, tous les Congolais sont d'accord d'aller aux élections dans le délai constitutionnel. Tout le monde est d'accord qu'on puisse avoir une loi électorale non discriminatoire, une loi électorale qui répond aux aspirations de la population. La preuve en était que le 19, le 20 et le 21, le peuple congolais, de façon pacifique, a dit non, nous ne voulons pas nous inscrire porte à faux pour aller encore dans des élections qui vont nous apporter de problèmes, mais plutôt nous voulons aller aux élections pacifiques de façon concertée et ensemble qu'on puisse tenir compte de la donne de l'opinion intérieure, l'opinion congolaise qui était tout le temps oubliée par les uns quand ils prenaient des décisions, quand on élaborait des lois. Et nous avons y arrivé avec une des recommandations que nous avons formulées au Parlement de tenir compte de l'opinion congolaise.
Franklin Tshamala, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Vous, comment vous avez reçu l'organisation de ce forum?
Bien, merci beaucoup, monsieur Alain Irung. Je voudrais pour ma part saluer aussi mon frère Jérôme Bosso, un vieux routier de la société civile qui ne lésine jamais sur les moyens pour faire son travail d'éducateur citoyen. Je voudrais également par la même occasion saluer mon frère Ruffin, que je n'ai pas revu sur un quelconque plateau depuis que cette année a commencé. Bonne année, Ruffin. Et ceci étant, je perçois les contextes dans lesquels ces forums est organisé, un contexte assez difficile pour notre pays. Et il faut dire que ce forum intervient au lendemain des journées chaudes que nous avons connues. Je voudrais emprunter les termes de Jérôme Bosso qui a dit des journées, des manifestations pacifiques de notre peuple. Je le laisse libre d'user les mots qu'il préfère, mais manifestations publiques, manifestations pacifiques, j'en ai connu dans ces pays, j'ai participé aux manifestations qui revendiquaient la réouverture de la CNS.
Conférences nationales souveraines.
Voilà, la marche des chrétiens les 16, un certain 16 février, je me rappelle que c'est resté dans l'histoire de ces pays parce qu'il s'agissait d'une manif pacifique. On n'a pas vu des citoyens avec des pierres en main, et je pense qu'en dépit de tout ce qui est arrivé ce jour-là, lorsqu'on fait les bilans, il n'y a aucun magasin qui a été pillé, aucun bien vandalisé, il y a eu des morts, on les déplore jusqu'à aujourd'hui. C'était pacifique parce que les citoyens s'étaient engagés dans une manifestation pacifique exactement. Bon, je ne sais pas s'il s'agit de même dans les cas qui nous concernent. J'ai entendu dire qu'il s'agissait en fait de la thématique d'un forum qui s'est proposé d'organiser la gouvernance, en fait de réfléchir sur la gouvernance sociopolitique, première et deuxième mandature. Au cours de ce forum, beaucoup de recommandations ont fusé, celles notamment qui constatent l'impasse du processus électoral et qui engage le gouvernement à fournir l'appui nécessaire à la CENI en vue de l'organisation des élections. Et dans ce cadre, j'ai noté qu'il est relevé la nécessité du dialogue, la nécessité pour le gouvernement de garantir l'exercice des libertés individuelles et publiques. J'en passe et de meilleurs. Il y a des concepts qui reviennent constamment. Exercice des libertés publiques et individuelles. Nécessité du dialogue. Nous recommandons notamment, recommandons. Je dis, c'est des concepts qui reviennent et des concepts sur lesquels j'entends avoir la fixation. Recommandation, ça veut dire un concept qui engage impérativement dans n'importe quel état du monde. Je voudrais m'interroger avec vous, dans n'importe quel état du monde, puisqu'il s'agit de la RDC, la République démocratique du Congo, à qui est-ce qu'il revient de fixer les agendas des gouvernances politiques, économiques et sociales? À qui revient le rôle de fixer les agendas des gouvernances? Je ne pense pas que dans un État démocratique, s'agissant de la RDC notamment, que c'est tout le monde qui fixe l'agenda des gouvernances. L'agenda de gouvernance est fixé par les gouvernements. Le Parlement joue son rôle de contrôle du gouvernement, des législateurs. La société civile, elle joue son rôle de force des propositions À mon sens, proposer, ça ne veut pas dire recommander. L'opposition joue son rôle de surveillance de l'action gouvernementale. J'en passe cette meilleure. Je voudrais que nous ayons la mesure pour situer chaque chose à sa place. Parce que le fait que nous n'ayons pas voulu situer chaque chose à sa place a failli verser ces pays dans l'apocalypse.
Alors, par rapport à toutes ces observations que vous soulevez, voulez-vous dire que les ONG auraient mal posé le problème?
Et je voudrais faire simplement des observations. Lorsque nous disons garantir l'exercice des libertés, est-ce qu'en même temps, nous nous engageons à dire à notre peuple jusqu'où l'exercice des libertés ne peut pas aller? Il ne s'agit pas d'exercer des libertés illimitées au nom desquelles on peut se permettre de piller, de voler, de s'attaquer aux policiers, aux biens publics et aux biens privés, appeler ça marche pacifique. C'est l'obscurantisme. Ça ne peut pas s'appeler autrement. Il s'agit ici, en même temps, de demander au gouvernement de garantir l'exercice des libertés, en sachant que l'exercice des libertés s'accompagne avec la jouissance des droits et la soumission aux obligations telles que prescrites par la loi. Vous comprenez? Donc, lorsque nous disons à notre peuple qu'il jouit des libertés illimitées, nous l'envoyons dans quel monde? Nous voulons bâtir quelle société? Vous comprenez? Parce qu'il en découle les dérapages du genre que nous avons connus et qui nous ont amenés devant les gâchis que nous déplorons.
Vous avez également fait allusion à l'impasse au processus électoral. De votre point de vue, sommes-nous dans l'impasse?
Nous ne sommes pas du tout dans l'impasse.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, parlons de ce que les uns et les autres appellent impasse et qui a failli nous conduire dans l'apocalypse. Quel est le fait matériel que nous mettons sur la table, un fait préjudiciable ou qui aurait préjudicié le processus démocratique, un fait matériel qui a conduit à l'organisation des manifestations de désobéissance civile que nous avons déplorées dans la ville. Le fait matériel, c'est un projet de loi. Un projet de loi qui était encore en discussion. C'est ça le projet. Un projet dans le cadre duquel on a perçu, mais dit-on, une intention. Et c'est sur base de la perception de cette intention qu'on a dit au peuple, allez sur la rue, détruisez, pillez, faites ce que vous voulez. Alors, je dis, attention, attention, mais si c'est une démocratie que nous construisons sur base des soupçons, d'une perception souvent qui n'est pas bonne, alors nous voulons bâtir quel État? Quel État? Je dis, il n'y a aucun fait matériel prouvé qui peut justifier tous les gâchis
Merci.
Que nous avons connus dans le pays. Aucun fait matériel.
Merci. Maître Ruffin Louko, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à Franklin. Bonsoir et à notre ami Jérôme Bonso.
Vous êtes avocat et chercheur en droits humains. Vous avez suivi Jérôme Bonso qui a coordonné ce forum ainsi que les observations soulevées par Franklin Pierre-Mala. Quelle est votre analyse à vous?
Bon, beaucoup de choses, et Guy est malin, mais nous n'avons pas assez de temps par rapport à toute la substance qu'on peut tirer de l'ensemble de tous ces faits. Mais je vais me rappeler ici que les grands historiens avaient déjà posé que un peuple qui ne tire pas les leçons de son histoire est condamné à la revivre. Donc, la nécessité de tirer des leçons de l'histoire du pays. Bon, très souvent, on a l'impression que notre pays n'a pas d'histoire. Notre pays a une histoire. Et comme il a également été posé que l'histoire d'un peuple se trouve logée dans sa presse, dans ses bibliothèques, dans ses librairies, dans ses chercheurs, dans ses écrivains, dans ses artistes. Et donc, ce pays a une histoire. Il s'est fait malheureusement que les gens ont oublié la Conférence nationale souveraine où les mandataires, comme vous appelez les délégués, n'ont pas écouté le peuple. N'ont pas écouté le peuple et nous en sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, une transition qui ne s'est terminée pas. Donc, première chose d'abord à constater, c'est que nous sommes trop dépendants de l'étranger. Pour que même la société civile puisse s'organiser, il faut qu'au départ, ils aient été invités aux États-Unis pour échanger sur des choses qui nous concernent. Et à partir de là, ils puissent avoir la présence d'esprit de répercuter pareil forum au pays. Et vous verrez que cette perméabilité-là à recevoir des instructions, c'est celle-là qui nous a rendus fragiles,
ce qui fait que même nos dirigeants, même nos institutions considèrent que pour que nous soyons légitimes au Congo, il faut aller à l'étranger, il faut aller aux États-Unis, il faut aller en France, il faut aller en Belgique, à Londres, et finalement c'est resté presque comme ça. C'est resté presque comme ça qu'on se rappelle ici que pour l'indépendance, Lumumba était au cachot. Lumumba était au cachot. C'est la table ronde qui l'a rappelé, qui a exigé qu'on le ramène à Bruxelles. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas une référence pour nous? Donc, c'est pour dire tout simplement allez, que non, beaucoup d'analyses tombent en tête, mais parce que nous n'avons pas assez de temps, nous n'allons pas tout ramasser rapidement. Mais nous voulons juste alerter que nous sommes dans une démocratie naissante. Rappelons-nous toujours de l'histoire. Bon, je constate que tout ce qui est arrivé, parce que, non seulement d'abord, le Parlement n'a pas écouté la population. Il a fallu que ce soit le Sénat qui l'écoute. Et que aussi, notre population se réflexe des pieds. Se réflexe des pieds. Je ne sais pas si déjà le code pénal militaire a déjà érigé en infraction punissable de la peine capitale. Pieds. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que chaque fois qu'il y ait manifestation publique, qu'on ne pille pas. Les événements qui s'étaient passés en 2006, après la chute de Bukavu, il y a eu encore pillage. Bon, ça c'est donc récent. C'est après 91, 93. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà les choses pour lesquelles nous devons réfléchir. Comment pouvons-nous faire pour que chaque fois que notre population doit exprimer ces libertés fondamentales, notamment de manifester, qui n'est pas pire.
Alors, dans ce contexte que vous venez de décrire, Maître Ruffin, Jérôme Bonsoir a parlé d'impasse du processus électoral. Franklin Tshamala estime qu'on n'est pas dans l'impasse et donc il n'y aurait pas nécessité d'un dialogue entre Congolais.
Dans tous les cas, le dialogue ne doit pas être fermé. Dans tous les cas, le dialogue, les institutions et ceux qui ne sont pas dedans, les dialogues n'ont pas été fermés. C'est vrai, la fois passée, je disais ici sur ces antennes que ne donnons pas l'impression que les salis du pays se trouvent dans les droits de l'homme. Non. Dans les recommandations, non. Dans les rapports, non. D'ailleurs, depuis longtemps, vous voyez, en France, en Italie, en Belgique, à Londres et aux États-Unis, il n'y a pas de ministère des droits de l'homme. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces pays-là, tout le monde a compris que le point d'achèvement, la consommation des droits de l'homme, c'est la justice. Et donc, nous devons nous battre chez nous ici. Mais lorsque nous voyons le magistrat grever, revendiquer pour que la justice revienne, la justice est le sali de nous tous. Les droits de l'homme peuvent disparaître. Mais si la justice...
Mais quand on est dans un contexte où souvent la justice agit sous l'impulsion de... Ça devient compliqué.
Et c'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser pour que la justice... non seulement soit indépendant, soit capable à répondre aux besoins de la nation. Ça veut dire que la justice, c'est vrai, le système dans lequel la justice fonctionne aujourd'hui, nous étions au ministère de la justice, c'est lamentable et pitoyable. Cette justice est par terre. Il faut absolument qu'on se redresse. Les droits de l'homme ont du succès dans ces pays ici parce que la justice est par terre. Notre justice est presque par terre. Donc, il faut que l'objectif principal, d'ailleurs, nous le faisons comme analystes, c'est pour alerter. Si ça reste comme ça, quelque chose que nous allons faire dans le processus électoral, la justice va encore nous décevoir. Si nous ne prenons pas nos responsabilités de redresser, relever la justice, tous ces combats que notre peuple, nos institutions mènent, jusqu'aux élections, d'abord locales, donc le reliquat des élections, puis pour arriver au présidentiel en 2016, nous serons encore décis parce que le recours soit incontournable en ce qui concerne le processus électoral. Il faut que seule la justice puisse rétablir la justice chaque fois qu'il y a des recours, il y a des revendications et qu'on ne donne pas l'impression que non, nous vivrons pendant longtemps prise en charge par les droits de l'homme, par les ONG. Il faut qu'on lève ça de nos têtes, que nous devons nous battre tous pour que la justice revienne à sa place et occupe son rôle.
Alors, Maître Ruffin, en évoquant ce passé récent, ce contexte que Franklin Tshamala qualifiait de difficile, peut-on dire qu'il y aurait en RDC une cassure entre la classe politique et la population?
Mais cette cassure, c'est depuis l'indépendance. Cette cassure, c'est depuis l'indépendance. C'est-à-dire, la classe de l'indépendance a crié. Faire quoi? Ôte-toi de là que je me mette. Bla, partez, nous prenons vos sièges, nous prenons vos chaises, nous prenons vos bureaux, nous prenons vos maisons, nous prenons, nous commençons à manger le matin, à 12h et le soir. Voilà. Et cette classe a pris la captation des commandements et jusqu'à ce qu'il y ait coup d'État, le maréchal a fait la même chose. La cassure est depuis l'indépendance. Donc, la réconciliation entre la classe dirigeante et le peuple congolais est une nécessité qui n'a jamais été comblée depuis l'indépendance. Il faut donc que notre classe dirigeante apprenne à écouter notre population. Et vous verrez que partout, il y a un dirigeant qui a écouté la population, notamment Laurent Désiré Kabila. Vous vous rappelez ce qu'il y a eu comme mariage. Et donc, les dirigeants sont appelés chaque fois à Merci. Écouter la population. Et c'est important, comme le chef de l'État est en train de le faire, il faut Merci. Que actuellement, les dirigeants actuels se rappellent que c'est important d'écouter le peuple. Cette réconciliation n'a jamais eu lieu entre la population congolaise et la classe dirigeante.
Jérôme Bonso, avant que l'on aborde les recommandations, répondez rapidement à Franklin Tshiamala qui pense qu'on n'est pas dans l'impasse. Qu'est-ce que vous lui dites?
La Commission électorale nationale indépendante a introduit sa feuille de route, a demandé l'argent auprès de la représentation nationale. 169 millions pour l'exercice 2014 afin de faire des tâches liées à la préparation des élections. Et la Commission, sur 69 millions, la Commission jusqu'en date du 30 décembre 2014, la Commission n'a eu que 50 millions de dollars. Les opérations prévues pour l'organisation des élections, la Commission n'a pas eu cet argent-là. Au moment où nous parlons, les agents de la CENI sont impayés. Au moment où nous parlons, la CENI avait programmé de lancer des opérations électorales, c'est-à-dire la convocation de l'électorat, ce qui concerne les certaines élections, ici pour le mois de décembre et de janvier, rien n'est fait. La CENI est en train de chercher l'argent auprès de partenaires extérieurs parce que notre gouvernement se trouve dans l'impossibilité de fournir les 169 millions demandés. Or, la CENI avait demandé 320 millions pour la rémunération du personnel, pour les opérations électorales. La CENI n'a eu que 50 millions à la date du 30 décembre 2014. Et le reste s'est tombé en quiétude parce que la loi financière de notre pays, on n'a pas prévu le report de ce montant-là. Et aujourd'hui, les uns et les autres parlent d'organiser les élections. Par quel bout allons-nous commencer? 2014, élections locales, c'est impossible. Du point de vue technique, la CENI n'aura pas tous les moyens nécessaires parce que la débâcle électorale de 2011 était due au déficit de planification. Et ce déficit de planification devait tenir compte de deux paramètres. Facteur temps et facteur moyens financiers. La CENI, le temps a coulé sans le moyen. La CENI a cherché l'argent. La communauté internationale qui nous a toujours aidé a conditionné son argent par l'élaboration d'un calendrier électoral global. Où est-ce que la CENI va avoir l'argent? La CENI est bloquée, juste, nette, incapable de mener les opérations. Et que faire? Quand la machine électorale ne tourne plus, qu'est-ce qu'on peut dire? On est dans l'impasse ou on n'est pas dans l'impasse? On est dans l'impasse parce que notre gouvernement n'est pas à mesure de répondre aux exigences de la CENI pour la tenue de l'élection à bonne date. Nous sommes déjà en retard du point de vue de l'élection locale, mais nous serons aussi en retard du point de vue de l'élection présidentielle qui est une exigence constitutionnelle. Est-ce que notre gouvernement, est-ce que la majorité au pouvoir, est-ce que l'opposition politique on fait pression sur le gouvernement pour débloquer l'argent pour l'organisation des élections? Rien ne fait. Voilà l'impasse.
Alors, revenons aux recommandations. Quelles sont les plus importantes selon vous?
Parce que nous avons parlé de la liberté qui sont garantis par la loi. Parce que quand on sait la liberté, on ne peut pas aller au-delà. La liberté, là, commence là, s'arrête la liberté de l'autre. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous ne pouvons pas encourager le pillage lors de manifestations pacifiques. Mais c'est au pouvoir public qui a cette mission d'encadrer les manifestations publiques. Est-ce que le pouvoir a eu le temps d'encadrer ces manifestations publiques? Nous disons non. Parce qu'il y a eu des dérapages. Lors des événements du 19, 20 et 21, il y a eu des morts d'hommes. D'hommes suite à un problème lié à la modification de la loi électorale. Et si le pouvoir avait pris toutes les précautions pour dire j'encadre les manifestations parce que nous sommes dans un régime d'information pour l'organisation de marches pacifiques et non d'autorisation. Et on a vu bloc. Et quand on crée des frustrations dans le chef des individus, ça aboutit sur ce que nous avons déploré aujourd'hui. Quand mon frère, mon compatriote Franklin nous dit que même Maître Adjinou
devons recevoir de l'extérieur. Oui, nous sommes, nous devons, parce que nous-mêmes nous sommes incapables de nous réunir. Pourquoi le Conseil de sécurité dans sa résolution 2098 nous demande le boss office du représentant du secrétaire général des Nations Unies au Congo, ils ont fait à M. Martin Kobler de la MONUSCO pour nous accompagner, parce que nous sommes incapables. Qui est capable d'inviter quelqu'un pour se mettre autour d'une table? Il fallait qu'on nous invite à Washington. Nous étions tous partis, majorité opposition et société civile. Nous on organise ce forum ici, les uns arrivent, les autres n'arrivent pas. Merci. Mais si les Américains étaient venus ici, tout le monde était allé être là. Donc nous sommes incapables nous-mêmes de nous retenir, de trouver des solutions. Étant donné que nous allons toujours rester dans ce sel, les autres vont nous dicter la loi. Les autres vont nous dicter. Obama a invité tous les chefs d'État. Merci. Tout le monde était parti. Qui a refusé? Personne. Merci. Et on a dit ne touche pas aux constitutions. Et tout le monde a dit amen.
Merci. Franklin Tchamala, parmi les recommandations, il y en a une au Parlement qui dit par exemple tenir compte des aspirations du peuple dans l'élaboration des différentes lois liées à la gouvernance du pays. Visiblement, on est dans un contexte où les élus n'écoutent pas leur base.
Non, je ne veux pas adhérer à une démarche de divulgation d'un discours obscurantiste qui est à la base des dérapages que nous observons dans le pays. J'entends dire par mon frère Mbosso qu'il y a un pass du processus parce qu'il y a un gap de financement du procès électoral. Non, j'observe que la CENI, parmi ses priorités, parce qu'il s'agit de définir les priorités, la CENI a acquis du matériel roulant neuf, y compris pour ses agents administratifs. Alors, si c'est ça, la priorité, hein, dans la gouvernance de la CENI, vous comprenez, il y a des choses sur lesquelles nous devions faire un certain examen de la gouvernance de nos institutions internes. Et donc, s'il y a un pass, parce qu'il manque de l'argent pour faire autre chose, j'ai dit, il y a eu de l'argent pour acquérir du matériel neuf, y compris pour un personnel administratif, n'est-ce pas ? Avec cela implique comme consommable au quotidien. Alors je me demande, un pass, c'est dans quelle rubrique, je ne sais pas. Bon, on va y revenir. Mais non, je parlais du discours obscurantiste. Il faut l'éviter. C'est vrai, nous avons droit d'exercer librement nos libertés, y compris la liberté d'expression, mais si au nom de la liberté d'expression, nous divulguons les mensonges et honteux. Vous dites, par exemple, le projet de loi électorale qui est sous examen vise effectivement à garder le président de la République au pouvoir jusqu'en 2020, sans le démontrer. Et vous dites au peuple, au nom de ça, vous dites, puisque cette loi-là est en train d'heurter la Constitution et elle modifie la Constitution, allez sur la rue. Et lorsque vous rentrez dans la loi, il n'y a rien de tel. Dans le projet de loi, rien de tel. Un projet de loi en discussion, c'est sur base des préjugés simplement que l'on décide un matin de faire la casse. J'ai dit, non, notre discours doit être mesuré. Nous sommes un état post-conflit. Nous sommes, beaucoup l'ignorent, beaucoup font semblant, nous sommes un état post-conflit, un état en reconstruction. Mais lorsque souvent nous faisons fi de toutes ces choses, pour commencer à nous comporter comme si nous vivions sur une planète où tout s'acquiert facilement, c'est dangereux, c'est dangereux. Et donc j'ai dit, au nom de l'exercice de la liberté, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi à un peuple. Surtout au peuple congolais. Lorsque vous dites au peuple congolais, dans un contexte comme celui-ci, que les discussions qui se font au Parlement se font pour maintenir le président actuel en fonction, vous le dites en sachant que vous mentez, vous rendez service à qui? Alors, vous dites qu'il y a rupture entre le peuple et la classe politique. Mais c'est entretenu par les discours obscurantistes et mensongers. C'est ça qui crée le fossé. Et donc, je dis qu'à partir du jour où nous déciderons uniquement de faire élégamment la politique, en vendant à notre peuple la vérité, dans la transparence la plus totale, nous irons alors loin. Mais lorsqu'aussi nous disons à notre peuple que ce qui compte pour lui, ce sont les élections pour les élections, nous trompons le peuple. Le peuple n'a pas besoin des élections pour les élections. Le peuple a besoin des élections qui lui permettent d'avoir du personnel politique de qualité. Parce que c'est le personnel politique de qualité qui va lui permettre d'avoir des institutions de qualité. Et ce sont les institutions de qualité qui permettent d'avoir un développement de qualité. Mais lorsque nous disons à notre peuple, les élections à tout prix, comme si les élections donneraient au peuple le bonheur, nous trompons le peuple. J'invite la société civile notamment, qui a vocation d'éduquer notre peuple à la citoyenneté, d'apporter la mesure dans les discours à divulguer. Les élections, pour les élections, on n'en a pas besoin. Et même lorsqu'on va loin pour dire à notre peuple, il faut les élections au plus tard, décembre 2016, est-ce qu'on dit au peuple la vérité? On ne dit pas au peuple la vérité, parce que notre constitution, lorsque vous lisez sa canne, la constitution, elle vous dit, notamment en son article 110, que le président de la République élu reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu à son remplacement.
Merci.
Alors, lisons les textes des lois de la manière la plus globale possible.
Merci, c'est important. Kamala. Maître Ruffin Louko, vous êtes chercheur, vous êtes également un pédagogue. Parmi les recommandations, il y en a quelques-unes au gouvernement, notamment mettre sur pied un programme d'éducation civique en faveur de la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais j'aurais aimé d'abord qu'on fasse l'évaluation du ministère qui avait réussi la nouvelle citoyenneté. Vous rappelez, qu'on fasse l'évaluation de cette attribution. Qu'est-ce que ça donnait? Parce que finalement, c'est au seuil de ces ministères que le résultat a été le pillage. Donc, qu'on fasse l'évaluation de ces ministères. Mais puisque par rapport à ça, alors comme cette émission a notamment ce que vous avez rappelé, le caractère pédagogique, l'éducation. J'ai lu dans les recommandations, n'est-ce pas, de la société civile, la recommandation selon laquelle rétablir les signaux des chaînes qu'ils ont citées, RTCS, KTV, ainsi que rétablir les signaux des réseaux sociaux. Alors, j'aimerais toucher quelque chose que la population n'a pas vu ici, et sur lequel on a creusé. C'est, comme on dit à quelque chose, malheureusement, bon, Anéa coupé, en fait, en faisant ce qu'on a fait là, de mettre tout le monde dans cette difficulté-là, parce que les dégâts sont énormes, hein, en ce qui concerne ce qui s'est passé dans la rupture de ces communications. Notamment en ce qui concerne les criminels économiques en matière de télécommunications. Vous savez que c'est depuis longtemps qu'on a interdit que les télécommunications ne puissent plus vendre les unités, que ce soit d'Internet ou de communications, par flash. Et les milliers de dollars qu'ils s'engraissaient par cette fraude-là de vendre les unités par flash, on les a eus par cette rupture. Au moins maintenant, le gouvernement a compris l'ampleur de la fraude et de la contrebande en ce qui concerne cet aspect-là. Et je considère que non, tout le monde peut tirer la couverture de son côté, mais nous sommes partis, s'il vous plaît, dans moins de d'une semaine, de plus de 50 millions de dollars, presque par réseau, en ce qui concerne le manque à gagner par rapport au fait qu'on les a coupés à ne plus continuer à vendre les unités par la voie qui leur était interdite, ça veut dire les flashs, alors qu'ils ne peuvent vendre les unités que par papier, ça veut dire les unités qu'on gratte. Alors je considère que donc ça nous permet de savoir comment on va réajuster, parce qu'évidemment lorsqu'on va aller rétablir totalement le système, il faut que les choses soient remises sur la table pour que les trésors publics puissent entrer dans ces droits en ce qui concerne toute cette contrebande et toutes ces manquements.
Alors là c'est un autre aspect que vous venez d'évoquer, les criminels économiques, mais il y a l'autre versant, c'est le droit à l'information.
Évidemment, parce que, bon, comme on dit que lorsque ça tombe comme ça, ça ne blesse pas qu'une seule personne, c'est tout le monde, même celui qui est à la base, qui est l'auteur de la décision. Ça crée des difficultés, c'est notre banque centrale, toutes les banques, parce que la plupart de nos banques, maintenant, sont sur Internet, toutes les opérations, c'est faux par. Mais évidemment, les réseaux d'État, parce que nous ne savions pas ce qui se serait passé. Ah non, je suis à Kinshasa avec vous, Alain, ça a été un appel pour un jour, et ça a donné toute la semaine. Nous ne savions pas ce qui se serait passé, c'est facile, hein? Nous ne savions pas ce qui se serait passé si les choses se seraient empirées au-delà de la semaine. Donc, on s'est dit tout simplement que c'était un appel pour un seul jour, et ça a donné une semaine. Et si ça dépassait une semaine, mon Dieu, ni vous allez, ni moi, ni ceux qui sont sur le plateau, personne ne savait ce que ça allait donner. Donc, nous considérons que nous avons quelque chose de malheureux, ça veut dire tout simplement que non. Peut-être par ces moyens, nous avons retrouvé la paix. Nous avons donc perdu une semaine. Les réseaux d'État prennent toujours les décis de toutes les considérations économiques. Je considère que non, à ce niveau-là, on tire la leçon que, en même temps, on a failli avoir un arrêt cardiaque de la République par ces mesures-là, parce qu'il était des mesures très, très extrêmes et très fortes.
Alors, Jérôme Bonso, Maître Ruffin Louko, dans sa précédente intervention, disait que le salut d'une nation n'est pas dans les droits de l'homme, dans les recommandations. Finalement, quelle valeur vous donnez à un travail comme celui que vous avez fait?
Le salut d'une nation réside dans l'opinion, dans la prise en compte de l'opinion interne des événements du 19, 20 et 21 de ce mois, ont prouvé que le peuple congolais a une opinion. Cher Alain, j'ai une petite expérience d'avoir sillonné le monde, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, en matière d'observation électorale. Quand on fait les élections, avant de publier les résultats, on tient compte que pense l'opinion. Avant de prendre une décision, que pense l'opinion. Et aujourd'hui, au Sénat, à cause de la réforme et de la loi électorale qui était mal initiée, les deux présidents de Parlement ont reconnu. Aubin a dit, nous avons entendu le souverain primaire. Léon Kengou a dit, la rue a parlé. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons fait une recommandation. Vous ne pouvez pas prendre une initiative d'organiser les élections de façon consensuelle, de publier les résultats des élections de façon unilatérale, comme on l'a fait en 2006 et en 2011, sans consulter l'opinion intérieure. Qu'est-ce qu'on avait vendu l'image du Congolais à l'extérieur, auprès des chancelleries? Un peuple congolais, c'est un peuple qui ne peut pas résister après 24 heures. Mais nous avons résisté pendant 6 jours. Parce qu'une semaine, le maître Leco vient de le reconnaître. Il y avait des réunions pour qu'on allait, parce que dans le chaos. Dans le chaos, c'est pourquoi? Parce qu'on ne peut pas reprendre la liberté des citoyens d'opinion. L'arrestation arbitraire de notre collègue, ça fait partie de notre recommandation, Christopher Ngoé, à qui nous avons demandé la libération immédiate. La coupure du signal de Radio-Télévision Catholique Ilikia et de Radio Seka TV et le refus de nous permettre d'accéder à l'internet, droit à l'information garantie par notre loi fondamentale. Et pourquoi tout ça sans tenir compte de ce qu'on voit comme perte sur le plan national? Parce que quand on gouverne, parce que mon frère Franklin a dit qui doit recommander, qui fait l'agenda, l'agenda est fait au nom du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Et en guise de conclusion,
on ne peut pas, à l'heure qu'il est, faire quoi que ce soit notre pays sans tenir compte de l'opinion publique. Nous avons dit aussi la CENI de jouir son indépendance et la CENI de tirer les leçons des événements du 19, 20 et 21 qui a l'opinion et la CENI puisse se comporter comme un groupe d'intérêt pour la population et non qu'un groupe d'intérêt pour la majorité et pour l'opposition. À ce moment, nous pensons que nous allons amorcer un procès électoral consensuel à l'élaboration d'un calendrier global.
Franklin Tchamalak, comment vous réagissez
à... Le droit à la liberté d'information est essentiel et substantiel constitutionnellement. Mais lorsque l'exercice de ce droit devient préjudiciable à l'ordre public, sur fond de la propagation des fausses nouvelles, les restrictions s'imposent. Et les restrictions visaient effectivement à préserver l'ordre public. C'est important. Et maintenant, nous sommes dans une démocratie représentative. La constitution que mon frère Mbosso m'a donné tout à l'heure en copie l'affirme. Et dans une démocratie comme celle-ci, la fixation des agendas des gouvernances appartient aux institutions issues du peuple et qui représentent le peuple. On ne peut pas dire que c'est tout le monde qui fait ce travail. Nous serions dans quel monde où tout le monde fait tout? Vous comprenez? Donc je dis, ce travail appartient aux institutions représentatives de notre peuple. Alors, ceci me conduit à dire un mot et à insister là-dessus.
En guise de conclusion.
Je répète, je dis, personne ne gagne dans la propagande démagogique. On ne peut pas, sur base des préjugés, fondés simplement sur la mauvaise perception des intentions de l'autre, envoyer un peuple sur la rue disant, allez, et faites les manifestations, revendiquez. Mais vous revendiquez sur base de la perception d'une intention.
Merci.
Perception d'intention.
Merci.
C'est dommage.
Merci.
C'est dommage.
Maître Ruffin Louko, il faut réconcilier la classe dirigeante et la population. Cela passe par quoi pour vous?
Ah non, mais cela passe par notamment par les élections régulières et également par les actions qui répondent aux besoins de la population. Par exemple, Nous réclamons depuis tout ça que tous ces massacres qui ont eu lieu à Beni, qu'il y ait des procès, qu'il y ait justice, soient faits à la population. C'est pourquoi, en ce qui concerne ce qui s'est passé à Beni, les droits de l'homme peuvent parler, mais il n'y a pas de procès. Nous saluons le travail, et vous n'avez pas couvert ça, Alain, le travail de toute la justice de Kinshasa par rapport à tout, à tous ces procès en flagrance qui sont liés à Kalamu, qui sont liés à Matete, qui sont liés à Ndjili, et dont beaucoup d'acquittements ont été prononcés par nos juges. Nous saluons ce travail-là.
C'est parce aussi à la justice de faire savoir ce qu'elle fait.
Hélas, bon, nous sommes là évidemment, nous tous, pour donc faire diffuser à l'opinion tout ce qui se passe. Mais bon, il y a eu beaucoup d'acquittements, il y a eu quelques condamnations, à ce qu'on fait le pire, parce qu'il faut que chaque fois notre justice soit faite. Je me rappelle qu'à Goma, il y a eu crash d'avion, à la même place où, en 1944, il y avait crash d'avion. C'était Rewabora, et avant ça, c'était une autre compagnie à l'époque coloniale, avec la différence qu'à 1944, il y a eu procès, mais ici, en 2000 quelques, il n'y a pas eu procès.
Merci.
C'est important donc que tout se termine par la justice. C'est elle, qui peut élever la nation.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention, chers auditeurs et internautes. L'équipe technique était composée de Bob Landou et Jean-Claude Nsiala. Équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Kéline Kouté et Berry Franklin Luchaka. Supervision, Julien Nyamouini. Coordination et présentation, Alain Hirou-Mouchige. Au revoir.